Le journal de Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Marguerite et bonsoir à tous. La guerre en Ukraine, ouverture à l'instant la Maison-Blanche du sommet initié par Donald Trump qui recevra Volodymyr Zelensky accompagné d'une importante délégation de chefs d'État et de responsables européens. Le président américain demande à son homologue ukrainien d'abandonner tout espoir de récupérer la Crimée annexée par Moscou ou de rejoindre l'OTAN. Ce dernier lui demande, je cite, d'exercer la paix par la force contre la Russie. Correspondance de Washington. Et avec Eric Biegala, nous redonnerons les enjeux territoriaux des discussions de ce soir. Également au sommaire de cette édition, une proposition de cesser le feu à Gaza acceptée par le Hamas, texte proposé par des médiateurs du Qatar et de l'Égypte, l'aveu d'impuissance des autorités espagnoles qui disent ne rien pouvoir faire pour éteindre les incendies qui ravagent trois provinces de l'ouest du pays. Dans l'actualité française, deux questions. Que reste-t-il des écoles à Mayotte 8 mois après Chido? Et faut-il voir dans l'appel à bloquer le pays le 10 septembre prochain une réplique du mouvement des Gilets jaunes? Un cessez-le-feu pour négocier ou bien négocier en vue d'un cessez-le-feu. Négocier avant de faire taire les armes, c'est la ligne que tient inflexiblement Vladimir Poutine. Tandis que les Européens et le président ukrainien refusent d'ouvrir des négociations sous le feu. Les chefs d'État britanniques, italiens, allemands, finlandais et le président français qui a atterri il y a quelques minutes, tous sont attendus d'un instant à l'autre à la Maison-Blanche. Washington, Marie Mollet.
Oui, les principaux poids lourds de l'Europe qui vont arriver un à un d'ici quelques minutes. Entrée portique sud, colonnade et grande entrée vers les jardins de la Maison Blanche. Trois premiers ministres, deux présidents, le patron de l'OTAN, la chef de l'exécutif européen. Cette fois, Volodymyr Zelensky est venu avec du renfort pour dissuader Donald Trump de lui tordre le bras en lui imposant un accord de paix dicté par le Kremlin, alors que le président américain a fait volte-face lors du sommet en Alaska et a semblé épouser la ligne de Moscou. Alors pour tenter de peser, les Européens n'ont cessé de se coordonner depuis plusieurs jours. Nouvelle réunion à Washington avec Volodymyr Zelensky ce matin à l'ambassade d'Ukraine. Tous ont aujourd'hui une priorité, arracher des garanties de sécurité à Donald Trump, préalable, selon eux, à toute discussion sur la cession de certains territoires ukrainiens. Si on commence à obtenir quelque chose sur les garanties de sécurité, ce sera une bonne journée, dit-on côté européen, où l'on tente aussi de décrypter les signes parfois contradictoires au sein de l'administration Trump ces dernières heures, entre le président américain qui met de nouveau Volodymyr Zelensky sous pression. Pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, écrivait-il en lettres capitales sur son réseau social. La veille, son secrétaire d'État, Marco Rubio, rouvrait au contraire la porte à des sanctions contre Moscou et à un cessez-le-feu.
Merci à vous, Marie Mollet, à Washington. Ne pas renoncer, ne rien céder, trouver un point médian qui n'insulte ni l'approche des uns, ni les priorités des autres. Le sort de plusieurs régions occupées par les troupes russes est délibérément au cœur des pourparlers en cours à Washington. Moscou convoite, on le sait, entre autres, les abondantes ressources minières de la province de Donetsk. Bonsoir, Eric Biegala.
Bonsoir, Mathieu.
Avec vous, Eric, survolons ces territoires dont l'avenir pourrait se jouer partiellement ce lundi.
Eh bien, il y a quatre oblasts ou régions administratives actuellement partiellement ou totalement occupées par la Russie en Ukraine, plus la Crimée. Cinq territoires, donc, que la Russie revendique en Ukraine. Alors, la Crimée, large péninsule sur la mer Noire, est contrôlée à 100% par l'armée de Moscou qui l'a occupée et qui, effectivement, la contrôle depuis 2014. Et c'est à partir de cette Crimée que l'armée russe a lancé une partie de son offensive générale sur l'Ukraine en février 2022. Autre région complètement contrôlée par les Russes, elle aussi, l'oblast de Louhansk, à l'extrême sud-est. Région minière, on y a produit et on en extrait toujours beaucoup de charbon. Louhansk, c'est en gros la moitié du Donbass utile. L'autre moitié, c'est l'oblast de Donetsk, occupé aux deux tiers par l'armée russe. Donetsk, c'est aussi une zone minière importante, mais l'enjeu principal est ailleurs à Donetsk. C'est surtout là que se concentrent les défenses les plus musclées de l'armée ukrainienne, celles qui contiennent effectivement les Russes depuis 2014. La ligne de défense, aussi appelée ceinture de forteresse, court en gros du nord au sud de l'oblast et pour Kiev, c'est une pièce maîtresse de son dispositif de défense, un atout militaire majeur que les Ukrainiens n'abandonneront pas facilement, particulièrement dans une négociation. Enfin, les deux autres oblasts revendiqués par la Russie, celles de Kherson et Zaporizhia, sont un peu plus à l'ouest, à cheval sur le fleuve Dniepr. Ce sont des terres agricoles essentiellement, mais elles accueillent aussi, sur la rive gauche du fleuve, la plus importante centrale électrique nucléaire d'Europe, celle de Zaporizhia, avec ses 6 réacteurs. guerre. Mais sur cette rive-là du fleuve, comme dans l'oblast de Kherson, c'est encore tenu par les Russes.
Merci à vous pour toutes ces précisions, Éric Biegala. La guerre à Gaza, nouvelle tentative de médiation. L'Égypte et le Qatar viennent de soumettre à une délégation du mouvement islamiste Hamas une nouvelle proposition de cesser le feu. Le Hamas qui l'a accepté. Une version, semblerait-il, proche de la dernière proposition américaine. Alice Moreno était à Jérusalem.
60 jours de trêve et des libérations d'otages en plusieurs phases, c'est la proposition faite par le Qatar et l'Égypte et que vient d'accepter le Hamas. Les contours de ce deal sont largement inspirés de la précédente proposition formulée par Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, et qui s'était finalement soldée par un échec. Israël n'a pour leur part réagi à l'annonce de l'adhésion du Hamas à cette nouvelle proposition. Samedi dernier, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou indiquait qu'Israël n'accepte acceptera un accord que s'il prévoit la libération de tous les otages en une seule fois et la démilitarisation du Hamas. Pendant ce temps, l'armée affirme que l'opération qui doit être menée à Gazaville est en cours de préparation et le président américain Donald Trump vient d'affirmer que les otages israéliens ne seront pas libérés tant que le Hamas ne sera pas complètement détruit. Nous sommes donc loin d'un contexte propice à la conclusion d'un accord.
Et dans le même temps, l'Égypte se dit prête à rejoindre toute force internationale susceptible d'être déployée à Gaza sous mandat de l'ONU. Dans le nord du Pakistan, des pluies torrentielles ont contraint les équipes de secours à interrompre leurs opérations pendant plusieurs heures. Plus de 350 morts depuis vendredi dernier, à la suite de crues soudaines et de glissements de terrain, notamment dans les régions vallonnées. Un épisode extrême de mousson dû au changement climatique. Autre conséquence du dit changement climatique. Les sécheresses qui s'installent dans la durée, notamment dans le sud de l'Europe, en Espagne, de terribles incendies ne faiblissent pas. Un pompier qui se rendait sur la ligne de feu est décédé, quatrième victime de ces sinistres. Le gouvernement espagnol le reconnaît désormais. Les incendies ne pourront pas être contrôlés tant que la vague de chaleur ne sera pas retombée. C'est une correspondance de Madrid de Mathieu de Taillac.
Le pompier est mort au volant de son camion quand ce dernier s'est renversé sur la route vers l'incendie contre lequel il allait lutter. Un de ses collègues a été blessé dans le même accident. C'est dans la province de León, l'une des zones les plus touchées par les feux avec les provinces voisines de Zamora et d'Ourense au nord-ouest et puis dans la région Estremadura à l'ouest du pays. Au total, ce sont 40 feux qui sèment la désolation dans le pays aujourd'hui. La ministre de la Défense a reconnu au micro de la radio Cadena Ser le caractère totalement inédit de ce type de feu gigantesque et en de telles quantités. Margarita Robles.
En 20 ans d'existence, les pompiers militaires n'avaient jamais rien vu de pareil. Ce sont des feux d'une énorme voracité, incontrôlables dans la majorité des cas et de plus en plus difficiles à éteindre, pour ne pas dire impossibles. Beaucoup de feux prennent en même temps, d'autres, que l'on croyait désactivés, sont ravivés à cause des hautes températures. La fumée intense rend impossible ne serait-ce que de s'approcher par voie aérienne pour participer à l'extinction. Tant que cette vague de chaleur ne faiblit pas, ça va être. Certaines parties sont incontrôlables.
Dur aveu d'impuissance du gouvernement, le chef de l'exécutif, Pedro Sanchez, qui était dans les zones dévastées hier, annonçait la préparation d'un grand pacte national pour répondre aux conséquences du changement climatique en Espagne.
Mathieu de Taillac à Madrid. Dans un rapport publié ce matin, l'ONG Human Rights Watch alerte sur la situation humanitaire inquiétante des populations des côtes sénégalaises déplacées du fait d'inondations. Déplacées ou réfugiées climatiques, ces personnes n'ont à ce jour pas de statut juridique alors qu'elles sont amenées, ces personnes, à être de plus en plus nombreuses dans les décennies à venir. Bonsoir Savannah Ruelan.
Bonsoir.
Savannah, 1,2 milliard d'après Oxfam d'ici à 2050.
Oui, Philippines, Indonésie, Sri Lanka, 7 des 10 pays les plus exposés à des déplacements de population dus au réchauffement climatique sont de petits états insulaires en développement. Robin Hell est membre d'Oxfam France.
Entre 2014 et 2024, 220 millions de personnes ont été déplacées à cause de phénomènes climatiques. On a par exemple des chiffres sur la Somalie qui a été victime d'une grave sécheresse où 1 million de personnes ont été déplacées à cause de cette sécheresse. La même année, donc en 2022, le Nigeria a été victime d'importantes inondations, obligé 1,3 million de personnes à quitter leur maison.
Les personnes fuyant des catastrophes climatiques font également face à l'absence de statut juridique permettant leur accueil. Elles doivent alors passer par d'autres qualificatifs pour entrer en Europe ou en Amérique du Nord, comme l'explique la chercheuse Marine Denis.
On cherche aujourd'hui dans le droit international d'autres espaces pour protéger ou en tout cas donner une qualification à ces personnes déplacées, en s'appuyant sur les cadres du droit international des réfugiés, ou bien chercher à vivre à un autre endroit en étant uniquement des migrants sans forcément être associés à ce facteur environnemental et climatique.
Marine Denis estime en revanche que des cas de contentieux en matière de justice climatique pourraient à l'avenir faire jurisprudence et permettre l'accueil de plus de réfugiés.
Savannah Ruellan, il est 18h10, vous écoutez le journal de France Culture. À Mayotte, il y a 8 mois et demi maintenant, l'ouragan Chido soufflait habitations et bâtiments publics, dont des écoles. Et aujourd'hui, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, visitait plusieurs établissements à Kungu et Mamoudzou. L'occasion de faire le point sur leur reconstruction, notamment avec des élus locaux. L'État français avait promis 100 millions d'euros pour un fonds d'amorçage, un fonds d'urgence pour rebâtir l'île et ses écoles. Bonsoir Valentin Gris.
Bonsoir Mathieu.
Valentin, sur place, les élus constatent tout simplement que l'argent ne leur parvient toujours pas.
Oui, Ancha Bamana est députée RN à Mayotte. Elle décrit une visite stérile car elle n'a pas obtenu de réponse d'Elisabeth Borne aujourd'hui. Elle pointe des lourdeurs administratives, les justificatifs demandés varient en permanence et les dossiers de subvention traînent.
Le dossier peut rester là-bas 3, 4, 5 mois sans un retour pour dire qu'il manque une pièce. Tout ça pour éviter que les communes dépensent ces fonds. Et à la fin, on dira que les communes manquent d'ingénierie. On dirait que l'État fait des économies sur Mayotte. Avant Chido, c'est ça. Après Chido, on continue à faire ça.
À Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte et sa plus grande ville, le maire Abdil Wahedou Soumaïla rappelle qu'une partie des écoles se reconstruisent déjà. Or, sans aide, ce sont les entreprises locales qui voient leur trésorerie fondre.
Nous sommes en train de mettre à genoux les entreprises qui ont travaillé sur le territoire. Donc, on va créer dans la crise une autre crise socio-économique, parce que moi, j'ai la pression des entreprises tous les jours qui viennent me voir me disant « Monsieur maire, on n'arrive plus ». Nos fournisseurs n'acceptent plus de nous faire des crédits. Des entreprises qui sont venues, qui m'ont dit qu'ils se sont fait agresser par leurs propres salariés. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui a travaillé 3 mois, 4 mois ne puisse pas toucher 1 euro de son travail, donc de son salaire.
Le ministère des Outre-mer interrogé répond que des dossiers sont validés à hauteur de 93 millions d'euros à l'heure actuelle, dont 45 millions pour des écoles. Mais beaucoup de ces dossiers seraient encore incomplets et les collectivités n'ont parfois pas fait la demande pour enclencher le paiement. Ironie du sort, le gouvernement prévoit déjà une autre enveloppe de 400 millions d'euros débloquée d'ici 2030 pour construire de nouveaux établissements scolaires. Les élus locaux sont donc sceptiques. Il manque aujourd'hui 1200 salles de classe à Mayotte.
Merci à vous, Valentin Gris. Le coût des fournitures scolaires pour un enfant entrant en classe de 6e et cette année en baisse de 5,53% selon l'enquête publiée ce lundi par Famille de France. D'après l'association, cela signifie que le panier moyen pour un élève qui entre au collège s'élève à 211 euros contre 223 euros à la rentrée 2024. Rentrée scolaire âpre à Mayotte, rentrée citoyenne potentiellement agitée si l'on a à l'esprit l'appel à la mobilisation du 10 septembre, ce mouvement qui appelle à tout bloquer à la rentrée, à boycotter les supermarchés mais aussi à descendre dans la rue pour protester contre les mesures d'austérité annoncées par François Bayrou, notamment la suppression de 2 jours fériés. Appel à la contestation, partie des réseaux sociaux qui rappellent forcément celle des Gilets jaunes en 2018-2019. Bonsoir Mathilde Bouquerel.
Bonsoir.
Mathilde, ces deux mouvements sont-ils comparables ?
Il y a effectivement beaucoup de similitudes, comme le relève Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, notamment le caractère spontané de ces deux mobilisations.
Le fait que ce soit des initiatives de citoyens qui se soient auto-organisées, qui soient passées par les réseaux sociaux, en dehors de cadres militants, syndicaux ou politiques, le fait que les mots d'ordre visent au retrait d'une mesure gouvernementale, à l'époque une taxe additionnelle sur les carburants, aujourd'hui cette mesure un peu chiffon rouge des 2 jours fériés. Troisième similitude, c'est un mouvement un peu patchwork. D'aucuns y voient la main de la droite radicale ou de l'extrême droite, l'autre de la gauche de la gauche.
Pour autant, attention, selon l'historien Pierre Vermeeren, ce qui différencie ces deux mouvements, c'est le moment auquel ils adviennent.
Ça a déjà eu lieu, le mouvement des Gilets jaunes, donc il n'y a pas l'effet de surprise, si vous voulez. Là, on sait que ça peut marcher, que ça peut avoir un très grand écho dans les classes moyennes ou dans les classes populaires. Dans certaines régions, dans les petites villes où, dont on n'attendait pas forcément une mobilisation. Je vois par exemple que certains partis politiques, on a parlé de LFI ce week-end, se positionnent en sa faveur, alors que la dernière fois, il avait fallu attendre très longtemps pour qu'un tel positionnement ait lieu.
Avec un risque de ce rapprochement par LFI, donner l'impression d'une récupération politique du mouvement.
Merci à vous Mathilde Bocquerel. Quelques mots de météo pour fermer ce journal après une nuit à venir encore chaude autour de la Méditerranée. La vigilance canicule sera partout levée demain matin avec l'arrivée de pluies orageuses par l'ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun à la technique Noé Chabal.